Verroy Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Le monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du lundi 4 avril 2022. Bonjour à toutes et à tous. En direct de Washington, Idrissa Sedoudia
et Michel Joseph.
Nous commençons par les titres.
Indignation en Europe et aux États-Unis après la découverte de fosses communes à Boutcha, près de Kiev. L'Ukraine accuse la Russie de génocide. Moscou dément avoir tué des civils.
Le président Salva Kiir et son rival Riek Machar scellent une étape importante vers la paix au Soudan du Sud.
En Algérie, le président Abdelmadjid Tebboune gracie un millier de condamnés et libère 70 détenus du Hirak à l'occasion du mois du Ramadan.
Ici aux États-Unis, au moins 6 morts dans une fusillade dans le centre-ville de Sacramento en Californie.
Ne manquez pas notre passeport ainsi que la Minute Éco.
Pour l'instant, le journal.
En Ukraine, les corps de nombreuses personnes ont été retrouvés dans une fosse commune à Boutcha, proche de Kiev, la capitale. Une découverte qui a suscité de nombreuses réactions, notamment à Washington. Le précision de John Linden.
Une dizaine de cadavres étaient visibles derrière une église du centre de Boutcha, au nord-ouest de la capitale ukrainienne. Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba, a dénoncé dimanche un acte délibéré des forces russes. Le président Volodymyr Zelensky a accusé la Russie de commettre un génocide en Ukraine. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, s'est dit profondément choqué par les images des civils tués à Boutcha. Il affirme qu'il est essentiel qu'une enquête indépendante permettent de faire la lumière afin que les responsables puissent rendre des comptes. Les États-Unis et l'OTAN ont exprimé hier leur horreur face au récit d'atrocité contre les civils imputés aux forces russes. Ces images sont un coup de poing à l'estomac, a réagi le chef de la diplomatie américaine Anthony Blinken. Il a réaffirmé que les États-Unis contribuaient à documenter d'éventuels crimes de guerre, refusant toutefois de dire s'ils considéraient qu'il s'agissait des crimes contre l'humanité ou même d'actes de génocide. Le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a pour sa part estimé que les violences de Boutcha étaient horribles, dénonçant une brutalité inédite en Europe depuis des décennies.
Près de 300 cadavres ont été enterrés dans ces fosses communes, selon l'AFP, qui dit avoir vu au moins 20 corps, tous en civil, jonchant une seule rue de la ville. Et selon la procureure générale d'Ukraine, Irina Venedictova, les corps sans vie de 410 civils ont été retrouvés dans les territoires de la région de Kiev, récemment repris aux troupes russes. Pour sa part, le ministère russe de la Défense a assuré dimanche que ses forces n'avaient pas tué de civils à Boutcha.
Pendant la période au cours de laquelle cette localité était sous le contrôle des forces armées russes, pas un seul résident local n'a souffert d'actions violentes, a déclaré le ministère. Il a affirmé que les images de cadavres dans les rues de la ville étaient, je cite, « une nouvelle production du régime de Kiev pour les médias occidentaux ». Fin de citation.
La Russie a demandé une réunion du Conseil de sécurité pour statuer sur ce qu'elle a appelé les provocations haineuses commises selon elle par l'Ukraine à Boutcha, où les troupes russes sont donc accusées d'atrocités contre des civils. Une responsable du gouvernement américain a dénoncé la demande de la Russie au Conseil de sécurité.
La Russie a recours au même scénario que pour la Crimée et Alep, forcée de défendre l'indéfendable, ici les atrocités de Boutcha. La Russie demande une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU de façon à feindre l'indignation et à demander des comptes, a tweeté Samantha Power, responsable de l'USAID et ancienne ambassadrice américaine aux Nations Unies. Personne n'y croit, a-t-elle ajouté.
Par ailleurs, le pape François a exprimé hier sa disponibilité pour contribuer à faire taire les armes en Ukraine et s'est dit prêt à se rendre à Kiev après avoir condamné une guerre sacrilège au lendemain de la découverte de cadavres de civils. Et puis d'énormes colonnes de fumée noire grasse montent dans le ciel d'Odessa qui s'est réveillé dimanche en sursaut au fracas d'une série de frappes russes qui ont visé des infrastructures bordure du grand port ukrainien sur la mer Noire, relativement à l'abri des combats.
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky est intervenu dimanche via une allocution enregistrée lors de la 64e édition des Grammy Awards, équivalent des Oscars pour la musique américaine, pour demander le soutien à son pays en proie à une invasion de la Russie.
La guerre, qu'est-ce qui est l'exact opposé de la musique, le silence des villes en ruine et des gens tués, a lancé le président Zelensky avant une performance de John Legend, rejoint sur scène par des artistes ukrainiens Mika Newton et Lyuba Yakimchuk. Au fait, John Baptiste a remporté l'album de l'année aux Grammy Awards pour We Are. Pour d'autres résultats, suivre les bulletins d'information de Yakuba Ouedraogo.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les dirigeants rivaux du Soudan du Sud se sont engagés dimanche à Djouba sur une disposition militaire clé du fragile accord de paix de 2018. Après une médiation du Soudan voisin, les deux hommes forts du pays étaient présents lors de la cérémonie de signature. Les précisions de Lionel Gahima.
Le président Salva Kiir et le vice-président Riek Machar ont accepté de former un commandement unifié des forces armées, l'une de nombreuses questions non résolues pour la mise en œuvre de l'accord de 2018 pour mettre fin à 5 années de guerre civile. La paix est une question de sécurité et aujourd'hui, nous avons atteint une étape importante, a déclaré Martin Abucha, qui a signé l'accord au nom du parti de Riek Machar. Il s'agit d'informer tout le monde que nous sommes pour la paix et que nous devons tous travailler pour la paix, a ajouté un conseil de sécurité du président Salva Kiir. Les tensions entre les forces loyales à M. Salva Kiir et celles de l'ancien chef rebelle Riek Machar ont connu une nouvelle escalade récemment. Les deux hommes prévoient une répartition des postes de direction dans l'armée, la police et les forces de sécurité. Soit 60% pour le camp du président Salva Kiir et 40% pour celui de Riek Machar.
Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a gracié plus de 1000 condamnés et ordonné la libération de 70 personnes détenues dans le cadre du mouvement Hirak. Le point avec Abdurrahman Dia.
Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a signé un décret accordant la grâce à 1076 détenus à l'occasion du début du mois du Ramadan, a précisé la présidence. Le chef de l'État a également ordonné des mesures de clémence en faveur de 70 accusés dans des affaires de troubles à l'ordre public, a ajouté le communiqué. Ces personnes détenues dans le cadre du mouvement Hirak, marqué par d'importantes manifestations de février 2019 jusqu'à début 2020, ont été remises en liberté mercredi et jeudi dans l'attente de leur procès. Figure connue du Hirak, Shems Eddin Lalami d'Ibrahim, détenu depuis juillet 2021, fait partie des personnes libérées selon le Comité national pour la libération des détenus. Le défenseur des droits humains Zaki Hanash est lui aussi relâché. Il est connu pour son engagement en faveur du Hirak et a été écroué en février pour apologie d'actes terroristes et diffusion de fausses informations.
Quelques résultats d'élections hier à travers le monde. En Hongrie, 4e victoire d'affilée pour le dirigeant souverainiste hongrois Viktor Orban à l'issue des législatives. En Serbie, victoire écrasante d'Aleksandar Vučić à la présidentielle, prolongeant une décennie d'emprise sur le pays des Balkans. Au Costa Rica, victoire du conservateur Rodrigo Chavez à la présidentielle. Son adversaire centriste, José María Figueres, a reconnu sa défaite.
Nouvelle fusillade aux États-Unis. Au moins 6 personnes sont mortes et 12 autres ont été blessées à Sacramento, en Californie. Plusieurs tireurs ayant fait feu lors d'une rixe dans le centre-ville. Une responsable de la police a décrit une foule présente sur les lieux avant le drame. On ne sait pas si cela venait d'une boîte de nuit ou d'une soirée.
Les fusillades dans des lieux publics sont fréquentes aux États-Unis, que ce soit dans des établissements scolaires, centres commerciaux ou supermarchés. Le droit de posséder des armes est garanti par la Constitution et plusieurs initiatives d'élus pour renforcer la législation sur les armes ont échoué au Congrès, où le puissant lobby des armes, NRA, exerce une forte influence. La Minute Éco, Nanit Talani.
Le Sénégal et l'Italie ont signé deux accords de financement de 10 494 400 000 francs CFA pour deux projets dont appui à l'insertion des jeunes et des femmes formées qui visent à faciliter l'emploi des jeunes et des femmes auprès des micro et PME sénégalaises. Le second projet, Faire l'école plus, favoriser l'inclusion et la réussite à l'école plus, cherche à améliorer l'accès aux services éducatifs en consolidant les capacités de pilotage du système et en redynamisant l'appui pédagogique fourni aux enseignants, aux écoles et à la communauté éducative. Le ministère gabonais de l'économie et de la relance a signé avec la France un accord de prêt de 73 795 162 500 francs CFA à travers l'Agence française de développement. Il vise à contribuer aux efforts de consolidation des finances publiques et de stabilité financière au Gabon, à améliorer l'environnement des affaires et à renforcer la lutte contre la corruption. Terminons par la Tanzanie qui recevra 125,3 millions de dollars du Fonds africain de développement pour étendre les ressources en eau dans la région de Dodoma. Les fonds serviront à la construction d'un barrage et d'une usine de traitement d'eau dans les villes de Dodoma, Bayi, Tiéba et Tchamino.
Merci Nanit. À présent, les sports avec Élisée Oumpatine. Élisée, bonjour.
Bonjour Idrissa et bonjour à tous.
Football avec le dénouement de la phase de groupe des interclubs de la CAF.
Oui, avec la sixième et dernière journée et en Ligue des Champions, il ne restait qu'un seul ticket à prendre dans le groupe A. Et c'est allé aux Égyptiens d'Al Ahly, victorieux 1-0 des Soudanais d'Al Hilal. Le club du Caire, tenant du titre, termine ainsi deuxième du groupe avec 10 points, loin derrière les Sud-Africains de Mamelodi Sundowns qui compte 16.
C'est le clap de fin aussi sur la phase de groupe en Coupe de la Confédération.
Tout à fait. Et on connaît maintenant les 8 qualifiés pour les quarts de finale. Le suspense était total dans le groupe D où toutes les équipes pouvaient se qualifier. Et finalement, c'est la Renaissance de Berkane et Simba FC qui ont obtenu les deux tickets du groupe O. Les Marocains ont battu 1-0 les Ivoiriens de la SEC d'Abidjan, premier avant cette dernière journée, et les Tanzaniens faciles vainqueurs 4-0 des Nigériens de la Gendarmerie nationale. Le tirage au sort des quarts de finale des deux compétitions est prévu samedi prochain.
En attendant Élisée, le président de la CAF se rend ce lundi en Côte d'Ivoire pour une visite de travail.
Exactement Idrissa, une visite de travail dans le pays hôte de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu en 2023. Patrice Motsepe rencontrera le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara, le premier ministre Patrice Atchi, ainsi que l'équipe dirigeante du football ivoirien. Le Sud-Africain visitera également certaines infrastructures prévues pour la grande messe du foot africain et va ensuite inaugurer officiellement le bureau satellite de la CAF à Abidjan.
Football toujours, on fait le point sur quelques championnats africains.
On commence par le Nigeria avec la 20e journée de la Premier League. Et le leader, Rivers United, a été accroché 1-1 par Akwa United. Son dauphin, Plateau United, n'a pas pu en profiter puisque battu 1-0 à Sunchan. 23e journée par contre au Ghana et Asante Kotoko conforte sa première place avec 49 points après sa victoire de 1-0 sur le terrain de King Faisal. Le club de Kumasi a 10 unités de plus que Adwana Stars tenu en échec 0-0 par West Academy.
Direction le Sénégal avec la 16e journée du championnat.
Oui, une journée marquée par le revers de Casaspor 1-0 sur le terrain de Djaraf. Un résultat qui profite à Génération Foot désormais seul en tête du classement avec 30 points, un de plus que le club de Ziguinchor. Au Bénin, on jouait la 8e journée des play-offs de la Super League Pro. Et Dynamo Omnisport d'Abomey, vainqueur 3-2 de Tchefa, reste seul leader avec 16 points après le faux pas de Coton FC de Ouida battu 3-1 à Parakoupa les Buffs du Bogou. Les Cotonculteurs sont même relégués à la 3e place juste derrière Espoir de Sabalou qui a concédé le nul 2-2 à domicile face à Ayema. Enfin, du basketball pour terminer, la NBA, saison régulière, et avec vous Idrissa, les résultats de la nuit.
Denver a battu les Lakers qui risquent d'être éliminés des barrages qualificatifs pour les playoffs, 129 à 118. Dallas a eu raison de Milwaukee, champion en titre, 118 à 112. Philadelphie bat Cleveland, 112 à 108. Victoire de Golden State Warriors sur Sacramento, 109 à 90. Surprise, Oklahoma City bat Phoenix 117 à 96. Boston massacre Washington, tenez-vous bien, 144 à 102. De nouveau avec vous, Idrissa Seboudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Burkina Faso, face à la recrudescence des attaques terroristes dans le pays, le président de la transition, Paul-Henri Damiba, dans un discours à la Nation, a tenu à rassurer les Burkinabés et leur donner rendez-vous dans 5 mois pour évaluer la situation sécuritaire. De Ouagadougou, notre correspondant Lamine Traoré.
Un peu plus de 2 mois après son investiture, c'est la première fois que Paul-Henri Damiba s'adresse aux Burkinabés.
Je voudrais cependant rassurer l'ensemble des Burkinabés que jamais nous ne trahirons la cause pour laquelle nous nous sommes engagés. Ce qui est en jeu est beaucoup plus important que nos petites personnes. Nos motivations, nos convictions et nos idéaux n'ont pas régressé. La sécurité est le premier objectif de nos actions et restera notre combat de tous les jours pour un retour de la paix et de la stabilité. Notre détermination dans ce combat contre l'insécurité et le terrorisme est indéfectible.
Les réactions à Ouagadougou. D'abord, Inoussa Ouedraogo est le directeur de publication du journal Bendré.
Il me semble que ce discours a perturbé plus d'un. Les gens commençaient à souffler. Et cette nouvelle donne où l'on annonce que on va restreindre à nouveau les libertés font craindre. On ne sait pas jusqu'où iront les militaires, mais nous espérons qu'ils travailleront véritablement pour ce pourquoi ils ont pris le pouvoir.
Pazien est analyste politique.
La création de comités locaux qui seront chargés donc de dialoguer avec ceux les groupes armés qui attaquent le Burkina Faso, parce que vous n'êtes pas sans savoir que ce sont des Burkinabés qui s'en prennent aujourd'hui à d'autres Burkinabés au niveau du Burkina Faso. Donc, ils parlent de créer des passerelles pour permettre à ceux qui le veulent de pouvoir quitter le camp ennemi, le camp terroriste, pour rejoindre donc le camp de la Nation. Et il dit également qu'il y aura un renforcement des actions militaires pour ceux qui ne le voudront pas. Deuxièmement, je pense que ça aussi c'est une innovation, c'est le fait d'accepter que nous sommes en guerre, de le dire et de créer, de décréter certaines zones comme zones de guerre. Parce que dans ces zones-là, ce sera des zones où les FDS iront au front.
Le président de la transition a, entre autres, décidé de créer les comités locaux de dialogue pour la paix, dont la mission sera d'initier des approches avec les membres des groupes en rupture avec la Nation, d'interdire aux populations civiles de mener des activités dans certaines zones d'opérations militaires, de restreindre des manifestations à caractère politique ou associatif de nature à perturber l'ordre public et de démarrer l'opération des audits dans l'administration publique et dans les sociétés d'État. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou, sur le 102.4 FM.
À l'instar de nombreux autres à travers le monde, les musulmans du Niger ont débuté le Ramadan ce week-end dans un contexte de cherté ambiante de la vie. Les effets conjugués de la crise russo-ukrainienne et les mauvaises récoltes font que tout est cher pour les plus pauvres. Les actions d'atténuation des autorités tardent à se faire sentir. Reportage de notre correspondant à Niamey, Abdulrazak Idrissa.
Tout est cher. Chacun se cherche. Cette année, que Dieu nous vienne en aide. Les prix ont grimpé. Aucun changement.
Sur les différents marchés de la capitale Niamey, difficile pour la ménagère de remplir son panier. Chaque année, en effet, à l'approche du mois béni de Ramadan, les prix flambent.
Là, c'est très cher. Avant, le tasse, c'est 1000 francs. Mais maintenant, c'est le demi-tasse, 1000 francs. Ça, là, c'est 1500. Et le tasse, c'est 2000. Il y a les gens qui vont vendre ça, 2000 et 1800. C'est cher, voilà.
Si on prend tous les produits, je pense qu'il y a une augmentation de prix. On peut même dire qu'on passe déjà au double.
Là, par exemple, j'ai en face de moi les pommes de terre que vous voyez là. C'est devenu très cher maintenant. Ça a pratiquement doublé de prix.
Au-delà des spéculations pour cause de Ramadan, le contexte international marqué, entre autres, par la guerre entre l'Ukraine et la Russie et les mauvaises récoltes de la campagne agricole de cette année peuvent également expliquer cette surété des produits de consommation.
Les prix des produits augmentent chaque jour. Nous ne savons pas la cause de cette augmentation. Les clients aussi n'ont pas d'argent maintenant. Normalement, en cette période, le mil ne doit pas dépasser 600 francs. Mais nous vendons la tasse à 750 francs. Le nibé est à 1250 francs. L'huile, 1100 francs, voire 1200 le litre.
May gashi yanzu mai litre guda jikada 20 jikada 40 mai da bai wuce da 20
kun sa ku bi ko da gobe 17000.
Le sac de farine coûtait 17 000 francs, mais maintenant nous l'achetons à 25 000 francs. Les clients n'ont pas d'autre choix que de s'en procurer. Le sucre est à 26 000 francs. Le sac, cette année, le mil et le nibé se font rares parce que la saison de pluie n'a pas été bonne. Le sac de nibé coûtait 46 000 francs. Le mil est à 27 000 francs.
Pour faire face à cette surété de la vie, le gouvernement a récemment annoncé avoir consenti aux commerçants des réductions de taxes à l'importation de plusieurs produits de près de 7 milliards de francs CFA. Abdel Razak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Et au Mali, depuis deux mois, les prix de certaines denrées de première nécessité connaissent une flambée sur les différents marchés de la capitale et de l'intérieur du pays. Une situation qui coïncide avec le début du mois du Ramadan, mois de grosse consommation, d'où les nombreuses interpellations des populations à l'endroit des autorités à prendre des mesures pour les soulager, nous dit notre correspondant Mohamed Danioko.
Dans sa parution du 30 mars dernier, l'hebdomadaire malien Le Jour a titré sur l'explosion des prix des denrées alimentaires et l'incapacité de la Direction générale du commerce, de la consommation et de la concurrence. Selon son directeur de publication, Kissima Bakari Kebe, un tour dans les marchés permet de vérifier le contenu de leur article.
Le prix de la baguette du pain qui s'élève désormais à 300 francs. Le prix du sucre, les kilos du sucre, est remonté de 500 jusqu'à 550 et maintenant le sucre est vendu dans certaines boutiques à 600 francs. Le constat est très alarmant sur le terrain.
Et pourtant, dans une conférence de presse tenue par la Direction générale du commerce, de la consommation et de la concurrence, massivement relayée par les médias, son directeur, Boukadari Doumbia, affirmait, je cite, « Le mois de Ramadan se passera dans les conditions plus que normales ». Ce qui ne semble pas de l'avis de Mariam Kone, présidente du Front populaire contre la vie chère.
Le mois de carême de cette année va nous trouver dans un contexte très particulier qui est les embargos que subit notre pays depuis plus de 60 jours. Donc nous sommes très inquiets pour cette année. Mais l'État a dit qu'il a beaucoup dépensé, il a injecté des milliards pour la subvention, de certaines denrées qui ne sont pas accessibles. Donc, nous constatons qu'il y a faille quelque part.
Dans la même dynamique que le cadre d'échange des partis et regroupements politiques pour une transition réussie, Fabou Diarra, chargé à la communication du bureau politique de l'ADEMA PASJ, estime que les sanctions de la CEDEAO sont les principales causes de ces différentes flambées.
C'est que l'embargo que la CEDEAO a infligé au pays, ça a des impacts terribles sur les produits des prix. Quand vous prenez la tonne du ciment avant l'embargo, c'était à 95 000, mais aujourd'hui la tonne de ciment va aussi entre 120 000 et 135 000 francs. Quand vous prenez l'ombrella, déjà c'est passé de 12 000 à 16 000, les 25 kilos. Et donc ce qui fait pratiquement que le sac est venu à 64 000 francs, eh bien qui dépasse de loin le SMIC malien.
Reçu en audience le samedi dernier par le Premier ministre, l'ambassadeur des États-Unis au Mali, à sa sortie d'audience, a fait savoir que la position entre le Mali et la CEDEAO était proche et dit espérer qu'un accord sera trouvé dans les prochaines semaines. Mohamed Danioko pour VOA Afrique, Bamako.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, CVO Afrique, 24h sur 24.
Le tirage au sort de la Coupe du monde de football Qatar 2022 effectué vendredi à Doha a réservé des sorts différents aux 5 représentants africains. Il faudra, entre autres, suivre le duel Sénégal-Pays-Bas, sans jamais oublier que dans la Coupe du monde, il n'y a plus de petites équipes. De Dakar, notre correspondant Sédina Abagay.
La veille de la fête de l'indépendance du Sénégal, hier, au stade Ibomar Diop de Dakar, le club local, le Djaraf, a battu le Casasport, équipe phare de la Casamance, dans le sud du pays, dans ce qui est maintenant appelé le Classico sénégalais. Cette rencontre au sommet paraît pour une fois anecdotique, car ici, toutes les discussions tournent autour du tirage au sort de la Coupe du Monde, Qatar 2022. Les amateurs de football, comme Lamine Sonko, pensent que les Lions ont les moyens de sortir de leur poule.
Je dirais que nous avons tombé sur un bon tirage, et puis nous avons des adversaires coriaces. L'Équateur est un bon adversaire, et surtout les Pays-Bas aussi. Mais avec tout ça, nous allons essayer de tout faire pour remporter les matchs. Jouer une Coupe du Monde est très difficile, c'est très difficile pour nous, mais vraiment, on y tient, on jouera à cœur avec Sadio, tout est possible.
Pour beaucoup de Sénégalais, les coéquipiers de Sadio Mané auraient pu tomber sur un groupe beaucoup plus compliqué. Babacar Diaye est convaincu que le Sénégal peut se qualifier sans grande difficulté.
Mis à part, je pense, les Pays-Bas, le Qatar et l'Équateur, c'est jouable. Et d'autant plus que le premier match, on va rencontrer les Pays-Bas. Donc on va se jauger pour voir notre niveau avec une grande nation. Et je pense que voilà, c'est une poule jouable. Et je pense que le Sénégal, avec beaucoup plus d'abnégation et de sérieux, on peut sortir cette fois-ci de ce premier tour et aller en huitième. Parce que c'est les Pays-Bas, c'est l'équipe top, en tout cas, de cette poule-là.
Loin de l'euphorie des fans, certains observateurs de football se veulent beaucoup plus prudents. Pour eux, il est encore trop tôt pour juger le niveau des équipes, car beaucoup de choses peuvent évoluer d'ici au début de la Coupe du Monde, Qatar 2022. Le journaliste sportif Sekou Seydi pense qu'il ne faut pas s'enflammer trop vite.
Lors de la Coupe d'Afrique des Nations, la poule du Sénégal, elle était jouable, mais pourtant, on n'a eu qu'une seule victoire, un seul but marqué, et c'est sur un pénalty. Alou Cissé, lui, il le dit souvent en conférence de presse, c'est qu'il faut être humble, respecter ses adversaires et vraiment se donner à fond pour gagner un match de foot. Donc moi, je pense que le Sénégal en est conscient.
Optimiste et confiant, beaucoup de Sénégalais estiment que ce tirage au sort pour le Qatar 2022 a offert au Sénégal une poule bien à sa portée. C'est un sentiment partagé, mais beaucoup de journalistes sportifs estiment qu'il faut rester prudent et aborder ce mondial avec beaucoup d'humilité, de préparation et de courage, car aucun match n'est jamais gagné d'avance. Sédina Bagay à Dakar pour VOA Afrique.
À votre avis, votre émission interactive sur VOA Afrique. Claire Morin-Gibourg avec vous. Coupe du monde de football 2022 au Qatar. Les tirages ont eu lieu. Le mondial s'ouvrira le 21 novembre par une affiche Sénégal-Pays-Bas du groupe A. Le Cameroun dans le groupe G affrontera la Suisse et le Ghana en groupe H se mesurera au Portugal le 24 novembre. Que pensez-vous de ce tirage? Quelles équipes iront le plus loin selon vous? Pour participer, laissez-nous vos commentaires et vos coordonnées sur notre page Facebook ou appelez-nous en direct au +1 202 205 26 33. À votre avis, c'est tous les jours à 18h05, temps universel, sur VOA Afrique.
Told you I changed, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay, need you to stay.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Vous étiez en compagnie d'Idrissa Seludia et de Michel Joseph. Michel qui était également à la mise en onde. Kelvin Fowler, lui, était à la console. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.